Nous sommes mercredi 12 février 2020 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah
bah
voilà, bonsoir à tous, bonsoir Zergy.
Salut tout le monde.
Bonsoir Mecton.
Salut les gens.
Bonsoir Antix.
Bonsoir.
Tout le monde est là, c'est bien, enfin les habitués sont là. Les piliers de bistrot sont là.
Les piliers de comptoir.
Voilà, alors moi en l'occurrence je suis vraiment... Ah, ça fait plaisir. Non, je suis vraiment en mode comptoir, du coup, parce que je suis debout. C'est le stand-up dojo bar.
Tenons-y.
Faudrait que je me trouve un petit torchon, c'est pour essuyer le bureau comme ça. Ça pourrait être sympa. Bref, nous allons parler de la catastrophe Warcraft 3 Reforged, parce qu'en en fait, il y a eu beaucoup de choses à en dire, finalement, en discutant un tout petit peu avec Zergy samedi soir, et en y réfléchissant pour faire ce conducteur, je me suis rendu compte que le sujet méritait probablement un tout petit approfondissement, donc ça va être un peu bizarre, parce qu'on va parler d'un jeu qui n'est pas du tout sorti sur Switch et qui n'a rien à voir, mais qui est assez représentatif à... Non, l'accent de l'aubergiste est mort.
Oh merde!
Faudrait qu'on fasse ça un jour en direct. On va accepter des biettes, tu vois, non, pour faire des conneries en direct.
Réunis un tabouret!
C'est ça. On va parler du dernier Smash Direct, puisque c'est. Alors, on avait parié sur un Nintendo Direct qui serait annoncé avant ce Dojo Bar, puis finalement, ça n'a pas eu lieu.
Contrairement à d'habitude, hein. Très décevant.
C'est. Ouais, voilà, je suis. Faut qu'on appelle Tonton Fufu pour dire que ça va pas du tout. Et.
Il a changé de coupe!
Il a l'arrêt à gauche au lieu de l'arrêt à droite?
Ouais.
Merde, ça déconne.
C'est même pas une blague. Non, il a changé de coupe de cheveux. Une information capitale, je savais pas quoi en faire, je la partage.
Mais je pense
c'est
que...
C'est pas une photo inversée.
C'est un fake. Fake. C'est un montage, c'est un photomontage, c'est pas réellement Tonton Fufu. Bref, mais nous allons commencer par les restes du monde qui est un petit peu l'actu, soit de l'équipe, soit un petit peu intéressante qu'il fallait suivre ces derniers temps. Je vais commencer par Sanic le Flim.
Alors, VF ou VO?
Alors, VF, parce que j'étais avec les enfants.
Ouf.
Qui avaient pas très envie d'y aller.
Oh merde!
La punition!
Je crois que t'as pas dit ça, c'est ça. Qui a fonctionné sur eux. Hein.
Non, mais alors en fait. Alors, bon, on va essayer de faire.
Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça?
Alors, on va faire un petit bout de pitch. Ils ont été insupportables ce matin, donc voilà, c'est tout.
Le nazi quoi.
Non mais voilà, donc alors le pitch du film, donc Sonic vivait peinard sur son île dans sa planète et à un moment il est attaqué, lui et son oncle le hibou. Voilà, normalement là déjà ça devrait. Voilà, il a un oncle qui est un
attends,
hibou.
Attends, il y a des shitty friends dans le film en fait.
Attends, il y a pire que ça parce que
c'est Sonic.
C'est Sonic. Bref, donc, lui et son oncle, le hibou, sont attaqués par une tribu de méchants qu'on sait pas vraiment qui c'est, mais que c'est quand même des méchants parce qu'ils ont des masques noirs, et en fait, on s'en fout parce qu'on les reverra jamais du film.
Sérieux? Enfin, non, oui. Ça m'étonne pas, mais...
C'est pas étonnant.
C'est pour la suite.
Et donc, Sanic fuit en utilisant les anneaux, c'est-à-dire qu'en fait, quand il jette son anneau en l'air, il grandit, et il peut traverser le temps et l'espace.
C'est un peu Stargate.
C'est ça, sauf que c'est avec un anneau, et voilà. Donc c'est tout à fait... voilà. Et donc ensuite, Sonic se fait chier, parce qu'il doit se cacher, il moleste des tortues.
C'est Mario.
Oui. Il atterrit donc dans une ville qui s'appelle Green Hill Zone. Ouh.
Wink wink.
Voilà, il provoque donc la fameuse panne électrique, donc ça vous avez vu le trailer. Donc on fait appel à, je cite, ce cinglé de Robotnik, parce qu'en fait on n'a pas d'autre choix. Pourquoi, on ne saura pas pourquoi, mais c'est pas grave. Arrive un Jim Carrey en mode zero fuck given. C'est-à-dire qu'il s'en bat les couilles, mais ça c'est d'une violence qui est quand même assez impressionnante.
Tu sens que le fisc américain l'a appelé récemment et qu'il avait
c'est
dit
«
ça serait bien que je fasse de l'argent ».
C'est un peu ça. Voilà, rebondissement non d'ailleurs. Pseudo-péripétie. Alors si Sonic est schizophrène... Ça faut quand même le savoir. C'est que très souvent il fait Sonic, il faut que tu ailles prendre ce truc. Ah non, il faut pas faire ça. Machin, t'as l'impression d'avoir Gollum en fait. Sonic, donc c'est quand même
dire,
très curieux. Je crois que quasiment toutes les blagues sont tombées à plat. Toutes. C'est-à-dire que je n'ai pas. Un mot, j'ai. Ah oui, tiens, il y a une tentative de blague. tentative donc. Et à la fin du film, il y a une scène post-générique quand même.
Ouais, évidemment.
Où il y a l'arrivée d'un Shitty Friends.
Tail
Sonic 2, ils veulent te...
ils veulent te hyper Sonic 2.
Avec les mecs en noir. Qui sont en fait les méchants de Kingdom Hearts.
Stop. Non, stop, s'il vous plaît, stop. Voilà, il n'y a rien à sauver dans ce film. C'est même pas tellement mauvais que c'est drôle. C'est juste mauvais. Et
du coup, c'est dommage qu'ils aient pas gardé le premier disque de Sonic.
Je sais pas. C'est dommage en fait qu'il l'ait sorti le film. Je pense que.
Ah non, mais ça.
Par contre, je serais très curieux de voir un montage avec le premier design parce que c'était déjà assez malaisant. Ah oui, les voix françaises sont. Enfin, la voix française de Sonic est assez ignoble. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais.
Apparemment, c'est un comique. Donc, il fait pas du tout de doublage du coup. Hein. Ils l'ont mis un peu dessus et j'ai vu que sur Twitter ça râlait beaucoup à son sujet.
Bah, il est pas mauvais. Il joue comme une grolle quoi. Donc. Bon, bref.
Et tes enfants, ils en ont pensé quoi?
Est-ce qu'ils t'ont maudit?
Il pleurait à la sortie du cinéma.
Non, mais en descendant en fait du cinéma, enfin en revenant à la maison en fait.
Après la PLS.
J'ai demandé voilà, et qu'est-ce que vous avez compris de l'histoire? Donc ils m'ont raconté l'histoire, ça avait rien à voir avec celle que j'ai compris, donc je pense qu'ils ont rien suivi en fait parce que c'était.
Ça allait beaucoup trop vite pour eux.
Non, ça allait beaucoup trop. Enfin, c'est tellement con si tu veux que. Tu vois, les mecs, il faut qu'ils se dépêchent d'aller de Green Hill, Montana, donc. À la tour, je sais pas quoi, à San Francisco. Je vous expliquerai pas pourquoi, c'est pas, à cause d'une péripétie de merde de début de film. Bref. Et donc, il faut qu'ils aillent le plus vite possible du Montana à la Californie. Et donc, ils vont en voiture, ils se font attaquer par Robotnik et tout ça. Et donc, à un moment, c'est presque comme un road movie, ils s'arrêtent. Il y a une station essence, Sonic, il voit, je sais plus quoi, bon, comme c'est un gros débile, il dit « Ah non, il faut surtout pas le faire, ah, ça a l'air rigolo !» Bref, donc schizophrénie à fond, quoi. Il y va, donc il va dans le bar où il y a plein de gros costauds, des prostituées, enfin bref, tout, voilà, film pour enfants, hein, je rappelle. Et l'autre, quand il débarque et qu'il voit Sonic, au lieu de lui dire « Bon, ok, ben, on y va maintenant, faut qu'on on a un road movie à faire, tu vois ?» Un peu. Il fait « Bah, c'est bon, tu vas pouvoir t'éclater ici, pas de problème. » Et donc on te rajoute 20 minutes de film comme ça.
Habile.
Film qui dure 1h40, c'est quand même la seule qualité qu'il a. Voilà. Et le meilleur moment du film, c'est donc c'est effectivement trop. Oui, c'est trop déjà. Le générique de fin qui est tout en... qui te re-raconte le film, mais tout en pixel art, et lui, il était très sympa. Voilà. Donc quand le générique de fin, c'est le meilleur moment du film, il faut quand même se poser des questions. Bref. Je close cette parenthèse Sonic le film, j'avais promis que je le ferais, je l'ai fait.
Est-ce que c'est mieux ou moins bien que le film Mario?
Je pense que c'est à peu près du même niveau.
Ah, donc bien nul à chier dans les égouts. Quoi.
Donc bien nul à chier, mais le problème c'est que le film Mario, il a atteint une espèce de statut un peu culte, parce que finalement c'est tellement mauvais que c'en est bon par moment.
En fait, surtout le film Mario était un très mauvais film de jeux vidéo à sa sortie, et depuis il y a eu les films de Wii Ball.
C'est un peu ça, et en fait, mais même tu te rends compte que pris au second degré, en fait, le film il est le film Mario, en fait, il peut être rigolo. Tu peux le regarder et te marrer avec.
Voilà. Là, je pense que c'est le genre de film possible. Que tu regardes en mangeant des chips et en rigolant avec tes potes.
C'est ça. Et moi, là, les films comme ça, moi, ça me va bien. Les films d'Uwe Boll, il y a notamment, je me rappelle de merde, je crois que c'est Alone in the Dark.
Tu veux dire plein de militaires contre des gros monstres.
C'est ça. J'ai rien compris. Au scénar, j'ai strictement rien compris au film. Les scènes n'ont ni queue ni tête, mais putain, qu'est-ce qu'on se marre, quoi. T'as deux bières dans le nez, c'est nickel. Est-ce que j'ai payé en liquide les places? Oui. Parce que quand tu fais une connerie, il faut la payer en liquide. C'est très très important.
Moi, ce que je note d'important, c'est qu'à la base, il disait qu'il embarquerait tous les mecs du dojo qui habitent en Île-de-France et qu'on y a échappé.
Oui, mais parce que vous étiez pas disponible cet après-midi. Bon, après, sur le principe...
Voilà. J'étais pas très chaud pour passer une journée pour aller voir Sonic,
je t'avoue. Moi je l'ai fait pour d'autres raisons aussi, mais voilà, bon, ça m'a permis d'aller
voir. Tu vois, quitte à perdre mon sang à aller voir à faire quelque chose, autant aller le donner plutôt que de le perdre en regardant un film pourri.
C'est un peu ça. Monsieur Antix, puisque tu fais le malin,
oui.
Tu avais envie de nous parler de Dark Souls 3.
Et oui, parce que...
On continue dans le sang, alors.
Oui, on continue dans le sang et la souffrance.
Exactement, parce que je sais que Dark Souls, c'est un petit peu un running gag ici, notamment avec le caleçon de Lothric premier.
Et pour tout le sacrificiel de Lothric premier.
Voilà, oui, c'est vrai que c'est ça. Moi, je sais pas pourquoi je parle toujours de caleçon.
Le caleçon sacrificiel de Lothric premier, ça marche.
C'est probablement parce que dans un jeu vidéo, un jour, en loot, j'ai obtenu un caleçon de l'apprenti ou une connerie comme ça depuis c'est resté.
Je veux savoir quel jeu.
J'ai totalement oublié le jeu tellement c'était oubliable. C'était un jeu à l'espèce de beat'em all en coop avec un pote, et puis au bout d'un moment on a arrêté de jouer parce qu'on se faisait rouler dessus ou parce qu'on se faisait chier monumentalement.
Overwatch.
Non. Mais ça pourrait. Mais y a pas de casson dans Overwatch. Du coup, pour revenir à Dark Souls, je me suis lancé dans l'aventure Dark Souls pour voir si finalement c'était aussi bien que les gens en pensaient. Et en fait, j'ai bien aimé. Mais c'était dur, surtout pendant 40 heures. 40 heures à se faire régulièrement poutrer la gueule, même par des monstres de base.
Long et dur.
Exactement.
Et c'est pour ça que tu as apprécié, donc.
Exactement, pour bien commencer 2020, puisque de toute façon, le gouvernement a décidé de nous la foutre à l'envers, je me suis dit, autant faire ce choix moi-même, avec un truc un peu plus agréable. Et en fait, non, c'est pas mal, il y a beaucoup de choses en fait, dans Dark Souls. Alors, le 1 était connu pour être très limpiratique et vraiment être assez libre. Le 3 est très linéaire, en fait, on va de zone en zone, de façon assez logique, en fait. On se perd pas vraiment, mais on se perd dans la zone. Donc c'est plutôt ça marche plutôt bien. Mais surtout, moi, j'ai vu pas mal de choses qu'on a vu dans Breath of the Wild, en fait. Que ce soit le système de combat qui se base énormément sur des timings, le fait que tu puisses, par exemple, faire une parade qui va te permettre d'infliger des coups de dégâts plus importants à l'ennemi. Il y a à peu près la même chose dans Dark Souls. Le côté assez libre aussi de se balader un petit peu, enfin d'essayer de trouver son chemin et de savoir un petit peu où tu vas aller. C'est des choses qui m'ont plu en fait, au-delà de la difficulté qui est présente, mais en fait le jeu utilise plein de trucs pour pouvoir un petit peu cheeser certains boss, enfin notamment moi il y avait une espèce de mec avec un katana qui était trop dur à vaincre au début du jeu, en fait il est tombé de la falaise, j'ai récupéré son katana et je m'en suis servi pour taper sur tout le monde pendant tout le jeu.
Oui, ça fait partie des... tu sais pas vraiment si c'est un bug ou une feature, mais quand ça t'arrive, t'es content.
En fait, je pense sincèrement que c'est fait exprès, parce que... il y a des fois, le jeu peut être tellement cruel avec vraiment des ennemis qui peuvent te défoncer ta barre de vie en 2-3 enchaînements, que quand ça arrive, ce genre de truc, tu fais « Non, mais en fait, c'est bon, je prends, tu vois. Je me prends pas la tête. » Et en fait, en tout cas, c'est une expérience intéressante. C'est un jeu qui apprend vraiment la patience. Ne serait-ce que... que ce soit dans la répétition, du fait de prendre son temps pour, d'être patient en fait, de recommencer parfois certaines zones ou certains boss plusieurs fois, et même patient dans sa façon de combattre, c'est-à-dire qu'on va pas être dans Bayonetta où il faut vraiment être très souvent dans l'offensive et dès qu'on va vouloir esquiver, on va pouvoir le faire immédiatement. On joue quand même une espèce de tank sur patte avec une épée qui apparemment pèse 3 tonnes, et du coup, il faut vraiment savoir prendre son temps pour attendre que l'adversaire fasse une ouverture et après lui péter la gueule comme il le mérite, ce connard.
C'est peut-être pour ça que j'ai jamais réussi à accrocher au jeu, quoi. Faut prendre son temps.
Mais en vrai, moi je trouvais que c'était un changement de rythme par rapport à ce que j'avais pu jouer en termes de jeu d'action assez bienvenu. Et c'était plutôt agréable. Et c'était une bonne expérience. Enfin, moi j'ai bien aimé Dark Souls. Je pense pas que j'en referai d'autres, à part peut-être Sekiro dans un an ou deux. Quand je serai à nouveau motivé pour refaire un truc comme ça, parce que clairement, moi ça m'a épuisé mentalement sur la fin. Parce que quand t'es à 40 heures à crever régulièrement, au moment t'as fait, j'ai envie de passer à autre chose. C'est un petit peu le bon gros souci avec le jeu, mais s'il y a des gens qui sont tentés par ce genre d'expérience un peu plus, un peu différente et prêt à se dire que on va morfler, et quand on va y arriver, on va être content. Je recommande, surtout que moi je l'ai payé 10 balles, donc.
Cool. Oui, à ce prix-là, effectivement, ça.
Je me suis dit, au pire, si au bout de 10 heures j'en ai marre, je laisse tomber le jeu, je joue autre chose, quoi.
Oui, effectivement, c'est... On va enchaîner...
Sur quelle plateforme? Pardon.
Oui, effectivement, ça m'intéresse aussi.
J'y ai joué sur PlayStation 4, mais il est disponible sur Xbox One et PC aussi.
Et du coup, quand tu crèves, est-ce que le temps de loading est rapide derrière ou pas?
Ça fait partie aussi des trucs qui m'ont un peu fait chier, c'est les loadings. Ils durent pas 30 secondes, mais 5-6 secondes, et moi ça m'est déjà arrivé sur des boss... Le temps du chargement, de retourner au boss, parce que tu recommences pas directement devant lui, était parfois plus long que le temps du combat lui-même, où y a des fois j'arrivais et je faisais de la merde, je me faisais massacrer en 30 secondes.
C'est un peu ce qui m'a surfait chier, moi, sur le premier. C'est...
Et non, mais je confirme que ça fait partie des trucs qui aussi, à un moment, m'ont fait que, en fait, plutôt que de continuer à m'acharner, j'éteins la console, je vais faire autre chose. En fait, d'ailleurs, c'est un jeu où j'ai fait beaucoup de petites sessions de 1h, 1h30, et jamais de grosses sessions de 4-5 heures, parce qu'en fait, au bout d'une heure, j'avais tellement la pression en fait de se balader dans les environnements parce que aussi quand tu pars d'un point de sauvegarde, donc qui sont les feux, moi ça m'a fait un peu ressentir ce que j'avais connu dans les deux premiers Metroid Prime, Tu sors d'une salle de sauvegarde pour avancer. Tu sais pas où se trouve la suivante. Et tu regardes ta barre de vie. Descendre, descendre, descendre. Tu sais pas si tu vas arriver au point de sauvegarde à temps. Mmh. Et ça m'avait beaucoup manqué dans un jeu. Mais c'est quelque chose qui en fait m'a aussi un peu fait que bah voilà, j'aimais pas jouer plus d'une heure, une heure et demie. Je l'ai consommé comme ça et c'était très bien.
Avec du coup la trouille de marcher sur un râteau qui va te one-shot.
Ouais, parce que en vrai, ouais, alors quand je dis que c'est un jeu tellement de pièges aussi que. Enfin, t'apprends à repérer où ils sont, mais. Des moments, tu te fais démonter pour juste un faux pas ou un mec qui était caché dans un coin et qui était bien dans l'angle de la morgue dans la caméra. Et au bout d'un moment, tu commences à comprendre, hein, mais. C'est très violent.
Ouais, le jeu t'en veut. Suite à ça, on va faire une petite parenthèse speedrun. Je vais commencer par juste un tout petit truc concernant Ocarina of Time. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, ça s'est passé ces derniers jours. Ocarina of Time s'est littéralement fait détruire encore une fois, avec un autre glitch très 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 amusant qui permet de finir le jeu aujourd'hui en 7 minutes et quelques, je crois. Alors, en 7 minutes et quelques, figurez-vous qu'effectivement, il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas le boss de fin. Le boss de fin n'est pas battu, hein, pour être très clair. C'est une série de manipulations extrêmement étranges qui consiste, en fait, à faire un petit peu la même chose que ce qui avait été fait pour Majora's Mask, c'est-à-dire à charger, décharger les objets de la mémoire d'une certaine manière, de sorte à créer un buffer overflow, donc un dépassement de tampon à je ne sais plus quel endroit exactement... Enfin, l'endroit dans la mémoire qui stocke, en fait, les cinématiques et à déclencher la cinématique de fin. Voilà. Donc, c'est un peu ouf.
Je pense qu'un jour, ils le finiront avant même d'allumer la console.
C'est ce qui va finir par arriver.
Ils vont allumer la console, il y aura le générique de fin.
Ouais, non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans de la corruption de mémoire, des choses comme ça. Alors, le Wang Warp, qui était le bug d'avant, qui permettait d'aller directement au combat contre Ganon, était aussi, faisait aussi partie de ces méthodes-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle du... SRM, c'est du sequence je sais plus quoi memory, donc c'est vraiment casser des séquences mémoire pour arriver à l'endroit où on veut, mais là les mecs ne battent même plus le boss de fin, quoi. C'est... Donc ça devient compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un débat actuellement dans la communauté qui run Ocarina of Time pour savoir s'il faut considérer que ces runs-là sont du N% ou pas, parce que ben, du speedrun c'est aussi du spectacle. Et que là, en termes de spectacle, bah, c'est un peu zéro, parce qu'en fait, on récupère l'épée, on récupère le bouclier, on fait des manipulations très curieuses à l'intérieur du village Cocorico, c'est-à-dire on va aller se balader dans un truc, monter sur un arbre, ramasser un caillou, faire s'y fermer, et puis à un moment, tu rentres dans une porte, boum, générique de fin. Bon, déjà, c'est pas très compréhensible pour le public qui regarde.
Mais comment ils le trouvent, ce genre de truc, les mecs ?
Alors là, c'est des tasseurs qui l'ont trouvé, parce qu'en fait, mais en fait, le Wong Warp, qui était le bug d'avant, en fait, ça consistait à trouver un moyen de sortir du village Cocorico, Kokiri, pardon, de la forêt Kokiri, aller choper une bouteille, généralement dans le village Cocorico, ramasser un insecte, faire une manip un peu spéciale, finir une petite partie de l'arbre Mojo, et en fait, arriver à déclencher un bug dans lequel on charge la mémoire avec tout un tas de bazar, on bat le premier boss, donc Goma, mais au lieu d'aller dans le truc bleu, tu joues de l'ocarina alors que tu l'as pas encore avec la bouteille. Et en fait, ça casse la... Non, mais c'est ça le bug.
On dirait le mec qui siffle dans sa bouteille de bière quand elle est vide, tu
vois. C'est exactement ça. Tu fais ça, ça lance la cinématique, mais sans vraiment la lancer. Donc le jeu se retrouve dans un état où il cherche la cinématique à l'intérieur de la mémoire. Et en fait, quand tu refranchis la porte pour sortir de chez Goma, ça déclenche une cinématique, parce que l'ouverture de porte est une cinématique, sauf qu'elle est à la mauvaise adresse et t'atterris directement dans le château de Ganon.
Bordel.
À la fin.
En tant que codeur, j'appelle ça une leçon de blindage, moi.
Bah, le jeu, il a jamais été conçu pour être fait comme ça, de toute façon.
Et puis, il y a aussi un truc, c'est que c'est Ocarina of Time, et je pense que les mecs ont passé... Enfin, c'est parce que c'est un jeu qui est super populaire, que les gens ont passé leur temps à le retourner, et qu'ils arrivent à trouver des failles comme ça. Enfin, déjà, je pense que d'avoir une faille comme ça, c'est assez incroyable.
Effectivement, c'est pas tous les jeux qui ont des trous de ce type-là.
Mais je pense que surtout, c'est le fait que des gens aient passé de temps à le trouver, en fait.
Mais t'as peut-être des milliers de milliards d'heures cumulées de jeux sur Ocarina of Time. C'est un des jeux qui est toujours les plus populaires à speedrunner encore aujourd'hui, avec Super Mario 64, avec Super Metroid. Voilà, Super Mario 64, et je rappelle qu'il y a quand même une run 0 étoile, sans problème, hein.
Voilà, oui, non, celle-là, elle est connue. Déjà, il y a même plusieurs versions, parce que normalement, t'as la 72 étoiles.
Il y a la 100%, 100 ah, étoiles. Il y a la 70 étoiles qui est en fait le, en gros,
finir le jeu normalement.
Finir le jeu normalement.
Entre guillemets. Parce
qu'il y a la 16 étoiles qui était la première où effectivement on finissait pas le jeu vraiment normalement.
Parce que 16 étoiles de mémoire, en gros, c'est limite. Enfin, je crois qu'ils passent toutes les portes avec un glitch et ils prennent que quelques étoiles obligatoires.
C'est à peu près ça. Mais c'est en gros, je crois que c'est une des dernières portes. Enfin, ils ouvrent quelques portes en fait avec des étoiles et c'est à peu près tout. T'as la 5 étoiles.
Ah oui, il y a celle-là.
Il y en a une. Il y a la 1 étoile.
Je récupère, moi je sais même pas laquelle je récupère.
Je sais pas laquelle, mais il y en a une qui, voilà, il y a la 0 étoile. Et ça va pas, la 0 étoile va moins vite que la 1 étoile en fait, ou une connerie comme ça, enfin il y a une astuce qui fait que...
Non, mais c'est... Moi je trouve ça fou, Mario 64 c'est vraiment un jeu qui a été retombé dans tous les sens aussi, c'est assez impressionnant. Hein.
Non mais voilà, mais tu as quand même des... Donc là, Ocarina of Time, je pense qu'on est arrivé au bout du game, tu vois, on pourra pas faire mieux, c'est-à-dire qu'il y avait Super Mario World qui avait vraiment été détruit comme ça aussi, puisque les mecs font aujourd'hui une série d'actions qui n'ont l'air d'avoir aucun sens, mais en fait ils font du buffer overflow, c'est-à-dire qu'ils chargent l'adresse mémoire qu'ils veulent derrière. Alors ce qui est bien, c'est que le jeu ne plante pas, remarque de Mecton, c'est effectivement...
Non, c'est impressionnant.
C'est impressionnant que le jeu ne plante pas.
Après, je pense qu'ils font les manières pour justement arriver à un moment où le jeu ne plante pas, parce que bon... Il suffit qu'il fasse peut-être un ou deux trucs différents et le jeu il crache directement. D'accord.
Mais ce qui est très rigolo avec le bug qui a été découvert là, donc je sais plus s'il a un nom, enfin je me souviens plus exactement.
Ouais, il en aura pas longtemps.
S'il en a pas un, il en aura un dans pas longtemps. C'est que les mecs ont aussi réussi à remettre le Arwing qui est dans le code du jeu.
Ah, trop bien.
Et qui n'était pas, que tu ne pouvais accéder qu'avec un action replay. Avec ce truc là, ils arrivent à faire le call mémoire qui permet de l'obtenir.
Nice.
Donc je m'attends à ce que les mecs arrivent à programmer l'intégralité de Doom 2016 dans Ocarina of Time à la manette d'ici 2-3 mois.
Ah, trop bien.
C'est à peu près ça.
Et pour revenir à la question initiale qui était est-ce que c'est encore un speedrun ou pas, moi j'avoue que je trouve ça assez intéressant à regarder en termes de massacrage de jeu, genre à quel point tu peux faire péter un jeu. Mais pour moi c'est plus du speedrun dans le sens où ça demande des déplacements et des actions très très pointues pour réussir ce genre de choses à la manette, mais du coup je trouve que tu perds un petit peu le côté genre je maîtrise un jeu au point où je peux le jouer, je peux faire le jeu que tout le monde fait mais beaucoup plus rapidement, ce que je trouve vraiment impressionnant dans les jeux comme dans les Metroid notamment. Bah là tu joues pas hein.
Bah là oui, là c'est déjà c'est pas accessible à tout le monde, et ensuite très honnêtement enfin pour avoir lu moi les détails techniques autour de ce glitch là, dis donc, les gars, c'est quand même très très poussé, quoi. Je veux dire, ils font vraiment... Enfin là, ils jouent plus à un jeu, hein. Ils sont pratiquement en train de programmer autour du jeu.
Ah, mais tu sais, c'est comme les mecs dans Matrix qui lisent la matrice directement sur l'écran avec les trucs verts qui tombent.
Oui, non, mais c'est exactement
ils
ça.
Ils sont à ce niveau-là.
C'est exactement ça. Mais ça, ce qui est impressionnant, c'est à quel point ça a été vite. C'est-à-dire que le glitch en lui-même a été découvert par un tasseur. Enfin, un tasseur, en fait, qui bosse dessus depuis un moment, parce qu'il se disait, on doit pouvoir arriver... À faire un Wong Warp directement dans le générique de fin, la question c'était comment le faire. C'est ça qui est pas évident du tout. Mais voilà, les mecs ont réussi à faire ça, et ils ont commencé à expliquer la technique. Il y a des gens qui l'ont fait en réel, et qui donc ont battu le record en mis moins de 10 minutes. Puis il y a un autre tasseur...
Je crois qu'il osait autour de 8 minutes actuellement. Hein.
Ouais, c'est ça.
8-9 minutes.
Il y a un autre tasseur qui a dit, bon bah j'ai trouvé une autre méthode, mais qui est normalement tasse-only, parce qu'il faut faire une manip en moins d'une frame, enfin en une frame exactement à tel endroit. Puis il y a un mec qui a réussi à le faire, puis tout d'un coup t'as d'autres gens qui se sont dit, putain, mais en fait on pourrait l'optimiser un peu. Enfin le truc est complètement ouf. Bref, à propos de ouf, on voulait faire aussi un tout petit bilan de la GDQ et vous conseiller éventuellement 2-3 runs à revoir, tant qu'on était en speedrun. Ça tombe bien.
Yes.
Antique, je vais te laisser commencer. On va alterner si tu veux. Une run chacun. Et puis
ouais.
Quand on a épuisé, on y va. Je te laisse commencer.
Et est-ce que du coup, je commence par la fin directement ou pas?
Ah bah vas-y, hein. Moi je ne me dérange pas.
Moi, il y a une run qui m'a vraiment impressionné au point que j'ai relancé Super Metroid après l'avoir vu. Donc c'est la run de Super Metroid. Mais c'était pas n'importe quel Super Metroid. C'est un hack qui s'appelle Super Metroid Impossible. Et qui, à l'époque où il a été fait, en fait, le mec s'est dit « bah, je vais faire cette version de Super Metroid modifiée, où je vais rajouter des pics en plus, je vais changer le chemin, notamment, bah, faut affronter Ridley sans la Variasuit, puisque la Variasuit est derrière Ridley. Ce genre de petit truc amusant. On a aussi des placements de bombes au pixel près pour pouvoir passer, pour pouvoir faire un saut qui, sinon, se solde par la mort instantanée de Samus quand elle tombera dans la lave. » Plein de petits trucs comme ça qui font qu'en fait le
fun Dark Souls, la Dark Soulsisation de Super Metroid.
Ah non, mais Dark Souls c'est un jeu agréable par rapport à ce que j'ai vu. Là on parle de trucs frame perfect à la limite, des moments où pour le seul moyen de passer c'est de faire des wall jump avec une précision d'enfer. Enfin c'est un truc assez fou. Et c'est très impressionnant, en plus impressionnant à regarder, puisque le runner qui est Odsen Goetz, si je ne, n'écorche pas son nom, enfin son pseudo, ne meurt que globalement à un seul moment, même s'il le fait plusieurs fois, c'est le combat contre Ridley. Il te fait le reste du jeu avec une maestria assez impressionnante. Il y a vraiment une maîtrise de Super Metroid dans tout ce run qui vaut vraiment le coup d'être regardé. Et moi, ça m'a juste donné envie de refaire le jeu que je suis en train de refaire en ce moment et qui est tout bonnement excellent. Comme il l'était à l'époque.
Je vais enchaîner avec une autre run qu'il faut, à mon avis, absolument revoir. C'est celle de Doom 2016 sur PC 100%. Je me souviens plus du nom du runner, mais il y avait du très beau monde puisque le runner lui-même était un ancien détenteur du record dans la catégorie Any%. Il avait le détenteur courant du record dans la catégorie Any%. Un monsieur qui run la catégorie Nightmare%. Alors Nightmare%, je sais pas. Je crois que ça consiste à finir le jeu en Nightmare le plus vite possible sans tuer de monstres, quelque chose comme ça, en tuant le moins de monstres possible, enfin c'est un truc un peu barré. Bref, je vous recommande cette run, elle dure 2 heures, donc ça se regarde en une soirée, c'était très drôle, on apprend plein de choses, c'était un des moments où il y avait le plus d'excitation dans la salle, donc c'est vraiment très très drôle à regarder. Et surtout, on se rend compte à quel point Doom 2016 est un jeu hyper quali, et que vous ne maîtrisez pas du tout. Voilà, si vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez, vous n'atteindrez pas le niveau du mec. C'est impressionnant, le gars perd quasiment pas de points de vie, il récupère assez rapidement, enfin, il récupère la rune qui permet d'avoir les munitions illimitées quant à l'armure à bloc, et du coup, à la fin, c'est le festival du slip, il y a des morceaux de monstres dans tous les coins. Voilà, clairement, c'est Doomguy qui vient semer l'enfer sur ces pauvres démons innocents qui n'avaient rien demandé. Hein.
Et qu'il le fait à la vitesse de la lumière.
Et qu'il le fait très très vite, 2 heures. Hein. Donc ça va vraiment très 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 vite. Bref, Antique, je te redonne la main pour un autre petit speedrun.
Après, dans la catégorie les jeux du cœur, ça m'étonnait qu'il le run aussi rapidement, mais Fire Emblem Three Houses a été runné à GDQ.
Putain, combien
1h45.
Oh les enculés.
Parce que, en fait, quand tu skips tous les dialogues, que tu te contentes de faire le strict minimum dans le monastère, et que tu fais en sorte que les phases ennemies ne s'affichent jamais à l'écran, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est une run qui est assez cool à voir, qui a été l'objet d'un Bid Wars. Donc, c'est en gros, sur un run, on propose plusieurs options qui vont être des options de run, et en fait les gens peuvent mettre de l'argent sur certaines catégories. Il se trouve que celle qui l'a remporté, c'est les Golden Deer, donc les cerfs d'or. Donc c'est celle-là qui a été runnée. Je pense que la durée de la run joue pas mal aussi, puisque il y a beaucoup de raccourcis qui ont pu être faits grâce à un des personnages des cerfs d'or qui a la téléportation très très tôt dans le jeu. Et c'est une run qui est assez cool, très très chill. Je crois que c'est une des rares fois où c'est une fille qui run le jeu d'ailleurs. Enfin, qui run un jeu à la GDQ. Je crois que c'est la seule fille que j'ai vue pour l'instant des runs que j'ai vus. Il y a des petits trucs sympas, notamment la présence du doubleur de Claude, enfin le doubleur anglais de Claude évidemment, qui vient commenter la run genre pendant une petite demi-heure, et c'est super cool. Et puis moi je trouve ça très drôle de voir les stratégies employées pour finir le jeu le plus vite possible.
Oui, effectivement. Alors je confirme, celle de Fire Emblem est très drôle à regarder. Pareil, ça se regarde assez vite, donc c'est assez marrant si vous comprenez bien l'anglais. En plus, le monsieur explique vraiment tout. Enfin, le canapé explique vraiment toutes les petites astuces en cours. C'est vraiment assez fou. Je vais en faire une petite dernière. Et je vais te laisser une dernière antique juste après si t'en as encore une à placer. La run de Wolfenstein New Blood en coop. Alors les runs en coop, il n'y en a pas beaucoup. Là, il y en a eu deux des runs en coop. Il y en a une qui n'était pas vraiment une run en coop. Alors je sais plus quel jeu sur Super Nintendo ils ont runné, mais en fait, il y a un mec qui tenait la partie gauche de la manette et un autre mec qui tenait la partie droite de la manette. Coop, donc. voilà, c'est quand même un peu particulier. Les mecs ont fini le jeu, hein, donc on peut pas le dire. Donc voilà, Wolfenstein New Blood, c'est hyper impressionnant de voir à quel point les deux runners étaient hyper synchrones sur tout ce qu'ils faisaient. Mais c'est vraiment... Alors les gars disent qu'ils s'étaient entraînés plusieurs dizaines d'heures par semaine parfois pour à s'obliger à se donner rendez-vous ensemble pour pouvoir jouer certains niveaux ensemble pour pouvoir arriver à avancer. Voilà, c'est vraiment très 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 quali et franchement c'est impressionnant. T'sais, on peut dire ce qu'on veut sur le jeu, l'apprécier ou pas l'apprécier, mais voilà, les mecs finissent le jeu en 1 heure. Avec de très beaux moves, avec quelques glitches assez impressionnants aussi, mais bon, voilà, c'est un peu un grand classique. En plus, ils sont obligés de faire du level up au fur et à mesure, il faut pas qu'ils soient trop décalés en niveau, donc ils sont obligés de calculer le nombre de points d'expérience qu'ils vont récupérer en tuant certains ennemis, et tout ça en temps réel, hein. Y a pas de... Ils mettent pas à pause pour aller vérifier, hein. C'est juste, il y en a un qui se dit, tiens, j'ai peut-être un tout petit retard, attends, laisse-moi celui-là, je vais l'achever, tiens, regarde celui-là, on va le tuer à deux, comme ça on récupère un bonus d'XP, enfin bref, un beau bordel. Je reprends de la main à Monsieur Antix,
je vais faire, pour le dernier. Je vais faire rapide, je vais faire un pack de 3. Dans les runs impressionnantes, il y a Bayonetta 2.
Je confirme.
Qui est très sympa à regarder.
Je confirme.
En plus, le mec fait le commentaire du jeu pendant qu'il joue, parce que c'est fou. Il joue en difficile, il joue pas en normal ou en facile. Je vous recommande aussi la run du chapitre 9 de Céleste qui dure 20 minutes, donc est très très courte. Et 20 minutes, c'est à peu près le temps qu'il vous faudra de passer des écrans de milieu de niveau du chapitre 9 tellement c'est dur. Et dans la catégorie beaucoup plus détente, il y a A Link to the Past Randomizer qui a eu lieu pendant la GDQ et qui a été un beau bordel, puisqu'en fait, Donc en plus d'avoir de mettre à des emplacements aléatoires tous les objets du jeu, les membres du chat pouvaient mettre des bits durant la run qui influençaient en fait qui influençaient en fait les paramètres du jeu, notamment l'inventaire, mais aussi certains paramètres très troll du style attaque de cocotte n'importe quel moment ou le mec qui peut mourir en un coup. Alors combiner ça à des boss comme la mythe avec ses pics un peu partout, vous tenez des bords assez prévisibles et assez tragiques.
Et t'en avais une toute petite dernière ou pas? T'as dit 3?
C'était ça, 3. Link to the Past, Céleste et Bayonetta 2.
Ah oui, pardon, c'est Céleste que j'avais zappé, parce que comme ça fait que 20 minutes, hein, c'est vrai que c'était.
Elle est rapide, en fait, elle est vraiment impressionnante à regarder parce que le gars maîtrise vraiment super bien le jeu.
Il a souffert pendant tout le jeu et à la fin, ils lui ont laissé 1h30 tranquille pour terminer la run quand même.
Oui, parce que la run devait durer 3h et je pense qu'il n'aurait jamais réussi en 3h vu ce qu'il y avait en face.
Bref, j'ai juste une toute petite dernière nouvelle qu'on pourra aborder.
Alors, comme toujours, oui. Le meilleur bloc, c'est le bloc au full.
Oui.
Oui, bah oui. Le fameux bloc du jeudi où c'est que des jeux de merde.
Oui, non, mais il y a. Ce qui est triste en fait avec la GDQ, moi ce qui m'emmerde, c'est qu'à chaque fois, c'est calé sur des horaires américaines. Donc les jeux intéressants, on les a entre 4 et 8 heures du matin.
Ah, c'est pour ça que je regarde que les rediffs. Hein.
Bah c'est un peu ça, moi j'ai fait l'effort pour Doom, je me suis levé un tout petit peu plus tôt parce que ça valait le coup, et franchement je l'ai pas regretté, mais c'est vrai que c'est un peu... Après, dans les jeux de merde, il y a eu des trucs assez pétés aussi, il y a un jeu sur 3DO, je sais plus ce que c'était le titre, mais putain, tu te dis, c'est pas possible quoi, ça existe vraiment. Bref, bon. Dernière petite nouvelle qu'on souhaitait aborder avant de faire une première pause musicale, on va faire ça très très vite, parce qu'on est un tout petit poil à la bourre par rapport à ce que j'avais prévu comme programme.
Y a un direct demain.
Non.
Non, ah bah tant pis.
j'ai cru que c'était tombé juste à l'instant.
Ou ça, putain, mec, on est en pression depuis 3 jours en se disant putain, mais il y aura direct, enfin, je barre, mais il y aura direct. Bref, The Wonderful 101 arrivera sur Switch, donc c'était un des derniers jeux Wii U à faire la transition vers la Switch. Il arrive via un Kickstarter. Dont on se demande pourquoi il est là, parce qu'en fait, je sais pas si le jeu sortira en physique en magasin, mais en tout cas, les backers Kickstarter, ils ont une édition physique qu'ils peuvent commander. J'ai l'impression, moi, c'est juste une opération promo précommande.
Clairement. Oui, c'est ça. Et puis aussi, je pense qu'il y a une partie de sous-sous pour faire les portages PS4.
Et c'est pas impossible.
Parce qu'en fait, ça sort sur Switch, mais aussi sur PS4 et PC, vu que ce sera auto-édité par Platinum Games. Et pas du tout par Nintendo, alors que c'est qui avait édité le jeu à l'époque de sa sortie en août 2015.
Oui, 2014 peut-être, plus 14, j'aurais dit. Que nous avions fait gagner Wonderful en décembre. Oui, Wonderful 101.
Il est sorti avec la Wii. Donc
non, il est plus tardif que ça. Il est pas un an après.
Moi, je sais que je l'avais. Moi, j'ai pas eu la Wii à sa sortie, mais pour moi, il est sorti plutôt un an après. Hein.
Je sais plus. Non, attends. Mais c'est... Bon, faudra qu'on... Voilà.
Je te laisse meubler pendant que je vais chercher.
Antix va chercher. Bref, comme super bonus très très sympa du Kickstarter, sinon vous pouvez vous faire bloquer par Hideki Kamiya.
Oui.
Parce que alors, il a une réputation de bloquer les gens assez facilement, mais du coup, si vous mettez... Alors, je sais plus c'est combien, c'est genre le 3 ou 4e palier, donc c'est l'édition...
C'est 90€ quand même, hein.
Ouais, voilà.
Pas...
Oui, mais attends, tu peux avoir le privilège de te faire bloquer par Hideki Kamiya sur Twitter.
C'est pas un privilège très dur à avoir en vrai.
Hein. Visiblement, c'est pas un privilège très dur à avoir, mais c'est quand même, je trouve, très rigolo comme bonus de précommande, le fait de te faire niquer par machin. Bref, voilà.
Du c'est coup, très, très 23 oui, donc... août 2013, Wonderful 101.
Ah, bah effectivement, donc Zergy, c'était pas loin de la sortie.
Un jeu qui a 7 ans. cette année.
Un jeu qui a bien bidé.
Qui était bien.
Il y a des rumeurs comme quoi Platinum aimerait bien sortir Bayonetta 2 sur d'autres bécanes.
Alors ça, je sais pas s'ils vont pouvoir, parce qu'il me semble que...
Là, c'est par une... contre, Nintendo met les sous.
Nintendo les sous, Sega les sous, faut qu'ils s'arrangent avec les deux. Apparemment, Astral Chain serait plus faisable. C'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Wonderful 101 sort ailleurs que sur Switch, parce qu'ils ont fait un petit arrangement avec Nintendo. Donc peut-être qu'il y a d'autres trucs qui traînent, genre typiquement l'exclus de Bayonetta 3, ça en fait peut-être partie, tu vois. Astral Chain peut en faire partir, mais c'est au bon vouloir de nos chers amis de Kyoto et de Tonton Fufu.
Je pense qu'ils vont garder une exclu temporaire, enfin peut-être quelques années.
Alors, il y a JBC qui nous dit, moi j'ai suggéré de faire Wonderful tout au tout et j'ai été bloqué. Donc effectivement, c'est très facile de se faire bloquer par Hideki Kami. Il doit avoir un bot en fait qui bloque les gens qui... Bon bref. Voilà, donc Wonderful 101 sortira sur Switch. Alors je sais pas si l'édition physique sortira en dehors des backers, j'en sais rien. Je pense que oui, ça a l'air d'être plutôt une édition de précommande. C'est une très bonne nouvelle, ça fait que je crois que la liste des exclusivités Wii U qui valent vraiment le coup d'être portées sur Switch va se réduire à peu près 3 jeux maintenant.
Mario 3D World, Pikmin 3 et Xenoblade X.
Voilà, c'est à peu près tout. Non, il y a Mighty No. 9.
Et Star Fox Zero.
Et Star Fox Zero. Est-ce qu'on est des bâtards? Oui. Est-ce qu'on va faire une pause musicale? Oui. Aussi. Et nous allons nous écouter la musique, enfin une petite partie de la bande originale de Ukulele and the Impossible Lair, que j'ai fini il y a 2 jours. Alors c'est un jeu qui est extrêmement grisant à finir, parce que le principe c'est que vous pouvez accéder au dernier niveau dès le début du jeu. Les mecs vous empêchent rien, mais voilà, vas-y, pas de problème. Sauf que c'est le Impossible Lair et qu'il est vraiment impossible. Mais c'est hardcore du cul. Et donc en fait, tu vas faire tous les autres niveaux pour pouvoir gagner des abeilles qui te serviront de point de vie à l'intérieur de l'Impossible Lair pour arriver le plus loin possible. Voilà. Alors c'est rigolo à voir, si vous voulez vous amuser, vous pouvez aller regarder, il y a des gens qui le speedrun le jeu en 16 minutes maintenant, c'est-à-dire qu'en fait ils essayent, alors t'as un speedrun sans abeilles et t'as un speedrun avec abeilles, du coup, donc les mecs qui le speedrun vraiment, c'est-à-dire qu'ils finissent le jeu, ils allument la console et ils finissent le jeu directement, puisque le dernier niveau et le boss de fin sont accessibles directement, et puis t'as les gens qui en fait packent les 48 abeilles du jeu et essayent d'aller le plus vite possible, et ils vont forcément plus vite puisqu'ils peuvent encaisser un peu plus de coups, quoi. Voilà. Donc, très rigolo comme jeu, vraiment je vous le recommande, Ukulele, si vous aviez pas aimé la version 3D, la version 2D elle est vraiment vraiment très très sympa. Je pense que le jeu a bidé malheureusement pour lui, mais...
Il est que en 2D du coup.
Enfin, c'est un Donkey Kong Country-like, voilà. Okay. C'est un Donkey Kong Country-like, avec un overworld très rigolo, voilà, plein de choses très bien faites, il y a 2-3 petits défauts, mais franchement c'est plutôt pas mal. Et donc on va écouter un morceau qui s'appelle Capital Causeway, qui en fait est... un des niveaux du jeu, je sais plus lequel, niveau 17-18, une connerie comme ça.
Un niveau capital, apparemment.
Voilà, exactement. Et on se retrouve dans 2 minutes 30. Ah, tout de suite. Et nous voilà de retour. Je commence à avoir un petit peu mal aux jambes, hein. c'est le principe du bureau debout.
C'est le dojo stand-up aujourd'hui.
Ma chaise de bureau est en partie à la poubelle, donc... Donc je peux même pas... Alors j'ai un tabouret là, mais... Voilà, ça va pas le faire. Bref, Warcraft 3 Reforge, que s'est-il passé? Alors un petit récapitulatif, donc Warcraft 3 Reforge, c'est... le remaster HD, que ça veut rien dire parce qu'en fait on peut le faire tourner en 1920 par 1080 la version d'origine, parce que c'est sur PC. Bref.
Bon, c'est une remise au goût du jour visuel.
Voilà, c'est une remise au goût du jour visuel qui promettait quand même 2-3 bricoles en plus, notamment garder l'état d'esprit du jeu d'origine, le ladder, les classements en ligne, les clans, tout ce bazar là, et surtout c'était la réunion de Warcraft 3 Reign of Chaos et Warcraft 3 The Frozen Throne, qui était sa première extension, sa première et seule extension, effectivement, et qui était quasiment obligatoire pour... Enfin, c'était pas obligatoire pour jouer, tu pouvais toujours jouer à Reign of Chaos, mais même moi, quand j'étais petit et que je jouais à Warcraft 3 avec mes colocataires, dès que Frozen Throne est sorti, en fait, il y a quasiment plus personne qui joue à Reign of Chaos original. Tout le monde avait upgradé occasion.
Sauf les gens qui n'avaient pas Frozen Throne.
Oui, mais les gens qui n'avaient pas Frozen Throne, moi j'en connaissais quasiment pas. Pour de vrai, hein. C'est vraiment le truc, voilà. Donc, Actipognon sort en grande pompe, enfin, annonce en grande pompe il y a quelques mois, un remake de Warcraft 3 Reforged. Et l'arrivée a été...
C'était la seule bonne annonce du BlizzCon 2018.
Non, il y avait Diablo sur mobile.
Oui, ah, c'était la c'est ça. C'est
ah, pardon. Voilà, donc c'était... voilà, et le jeu débarque, et il est buggé. L'ADA est plus que discutable, parce qu'en fait, c'est à peine un upgrade par rapport à ce qui avait été présenté. Le jeu d'origine...
C'était mieux dans les trailers.
C'était mieux dans les trailers.
C'est tout le problème.
Les jeux d'origine ont été sabrés, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer en ligne avec le jeu d'origine, enfin, tout a été coupé. Donc les jeux d'origine, ils ont été gentiment émasculés, et puis voilà. Et c'est le truc qui avait remarqué Mecton, qui était absolument horrible... Tous les mods que tu crées appartiennent automatiquement à Activision Blizzard. Alors que, bah, je rappelle que Dota...
Et n'as pas le droit de te plaindre.
Et t'as pas le droit de te plaindre. Alors que je rappelle que Dota, par exemple, est à l'origine... Dota et Dota 2 sont à l'origine des mods de Warcraft 3. Donc c'est vrai que Warcraft 3 a été prolifique là-dessus, puisque tous les League of Legends-like, les Dota, les machins, tout ça, c'est issu de World of Warcraft... de Warcraft 3. C'est issu de mode de la communauté de Warcraft.
Ce qui est vraiment fou, parce qu'à l'époque où j'y jouais, enfin moi je jouais pas aux cartes normales parce que j'étais nul à chier, on va pas se mentir, et c'était vachement plus drôle de jouer aux espèces de cartes RPG, au Dota ou au Tower Defense.
Oui, voilà, le Tower Defense, le Tower Attack, le Loup-Garou, il y avait plein de cartes très très drôles à jouer.
C'est vraiment fou de se dire que avec Warcraft 3, il y avait un éditeur de jeu qui était monstrueux et qui a donné quand même un des jeux les plus populaires actuellement, qui est League of Legends. Ah, ça, c'est juste un mode de Warcraft 3, quoi. C'est quand même dingue de se rappeler ce genre de choses. Et moi, je me dis, en plus, j'ai joué à cette époque-là, donc j'étais là quand ça a commencé, tu vois. I was there.
Moi, Dota, j'y ai joué, en fait. Parce que, effectivement, avec mes colocs et mes potes à l'université, on faisait du Warcraft 3 classique, c'est-à-dire qu'on faisait du 4 contre 4 sur des grosses maps à se mettre sur la gueule pendant une heure ou deux. Puis derrière, on faisait un petit Dota parce que c'est rigolo, ça détend. Tu comprends pas grand chose aux règles parce qu'en général les modes il y avait des trucs très compliqués dedans et voilà, mais ça fonctionnait, quoi. On avait un truc qui marchait sur un jeu qui sur le principe de base marchait très bien. Et bon, ça s'est pas bien passé, hein, Reforged
ou après 3 Refund.
Ah oui, je vois.
Alors non seulement il y a eu des demandes de remboursement en masse qui ont dû être automatisées par Activision Blizzard tellement ils en avaient.
Au début, ils voulaient pas.
Au début, ils voulaient pas.
Bah, évidemment, mais personne n'a envie de rembourser.
Bah, le problème du pognon des précommandes, c'est que du pognon que ça a déjà dépensé en tant qu'éditeur. Hein.
Bah, en fait, souvent, maintenant, je pense que les éditeurs, une partie de leur budget, c'est les précommandes. Hein.
Oui, on va être très clair. C'est comme ça qu'on fait rouler le budget. Hein. C'est me paraît évident.
C'est, hein. C'est pour ça que les précommandes, c'est le mal.
Bah, c'est pour ça qu'il faut pas en faire. Enfin,
ne faites des précommandes que si vous êtes débité à l'envoi.
Par exemple, donc en édition physique, par exemple, parce que ça vous permet de... Et pas chez Micromafia, qui vous demande encore un acompte. 2020.
Et de toute façon, si vous voulez prendre en démat, bah, attendez que le jeu sorte, en fait.
Oui, puis même attendez que les reviews sortent aussi, parce que
aussi,
là...
Oui.
Donc c'est devenu en quelques jours le jeu le plus bas en physique.
C'est violent d'ailleurs, hein, le plus bas.
On parle de 0,5 points 0,5 chez le public sur Metacritic.
Donc c'est du review bomb. Alors attendez, parce que c'est un gros review bombing.
Plus... Sachant que les review press sont pas non plus exceptionnels, hein, de ce que j'ai pu voir.
Les
en review press.
Ouais, ce qui est quand même assez ouf pour... Enfin tu vois, tu
vois,
Warcraft 3 quand même. Hein.
On parle d'un jeu Blizzard en plus, qui a quand même pendant des années, jusqu'à il y a pas si longtemps, un standard qualité reconnu par l'ensemble des joueurs et la presse.
C'est-à-dire que même Starcraft 2, qui était un peu mal aimé par... qui a pas eu le succès que Blizzard escomptait, ne s'est pas fait descendre comme ça.
Déception sur 20.
C'est ça. Mal aimé parce qu'ils ont pété la campagne en 3, mais si vous, le multi était vraiment, vraiment, vraiment cool.
3, rien dit, c'est pas, mais j'en parlerai.
Oui, bah, comme malheureusement beaucoup de jeux Blizzard, hein, je crois.
Bref, donc ça a été. C'est toujours en cours d'ailleurs, hein, ça a pas, c'est pas encore. Le soufflet n'est pas encore complètement retombé, donc.
Ils ont diffusé un premier patch, mais bon, il y a encore des trucs à régler.
Ouais, je t'avoue que j'ai acheté le jeu la semaine dernière.
Mais pourquoi ?
Pour la campagne, j'adore l'histoire.
Je crois que j'ai jamais fini la campagne de Warcraft.
J'adore
cette
campagne.
C'est parce que tu n'utilises pas les codes.
Et même, tu vois, en me disant, bon, le multi, je verrai après, les serveurs sont instables et tout. Vu que tu passes à travers Battle.net, alors une semaine après, a priori, c'était mieux, mais quand je l'ai lancé, allez, 3 fois sur 5, c'était black screen au démarrage.
C'était sérieux ? C'est pour lancer la campagne solo ?
Oui, oui, oui. Non, pour, putain, pour arriver fait, au menu,
il est sorti pas fini,
de connexion. Quoi. Et du coup, oui, je rejoins Antix, on est très très loin de l'époque du Blizzard qui te sortait un jeu
qui était fini et qui était fignolé aux petits oignons. Enfin, Reign of Chaos et Frozen Throne, alors il y a des patchs correctifs, mais qui étaient des patchs correctifs d'équilibrage. Et qui étaient très rarement des correctifs, des patchs qui corrigeaient des bugs, c'était très 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 rare, effectivement. Je rejoins Zergy, les bugs, fallait vraiment les trouver. Alors, il y en avait, hein, mais putain, fallait vraiment, vraiment, vraiment les trouver.
Non, et là, t'en as... Même au-delà du bug, quand tu regardes de près, t'as des mélanges de textures.
Sérieux ?
Tu as des textures retapées, tu les reconnais.
Le jeu origine est plus joli.
Voilà, mais t'as des textures d'origine qui sont mélangées là-dedans. Si vous lancez le jeu et que vous regardez de près le gazon, il y a des fois, tu fais... Attends, mais ils sont gaufrés dans le copier-coller des assets, quoi.
Bah, ce qui est ouf surtout, c'est que Warcraft 3, le jeu d'origine, il pouvait littéralement tourner sur une montre à quartz, quoi. Le jeu était en 3D, mais la DA faisait une grande partie du truc, et techniquement, il pouvait tourner sur des machines qui étaient vraiment de très très faible calibre et très correctement. Parce que c'est effectivement un jeu de qualité, bien programmé, dans lequel il y avait eu de l'optimisation de fait et tout ça.
C'est ça, il était beau sans être techniquement oufissime, quoi.
C'est ce qu'on lui avait reproché d'ailleurs à l'époque, c'est que pour un RTS en 3D, il n'était pas foufou des fesses. Mais en même temps, effectivement, il tournait, finalement Overwatch, il y a quelques années, tournait sur des machines assez modestes, tournait correctement. Mm-hmm. Donc c'est aussi pour moi une marque de fabrique des bons éditeurs PC, c'est-à-dire que Crysis, c'est gentil, mais ça sert pas à grand-chose. Voilà.
C'est une démotechnique, c'est pas un jeu.
C'est ça, c'est une démotechnique, c'est pas un jeu. Là, c'est un vrai jeu. Dans lequel les mecs ont pensé aussi au fait que tout le monde n'a pas la dernière carte RTX 2080 qui coûte 3000 euros, mais qu'il y a des gens qui ont une petite Vodou 2 et qui aimeraient bien faire tourner Warcraft 3, et en fait, ils pouvaient. C'était en 640x480, fallait un peu plisser les yeux, mais basiquement, tu pouvais jouer dans des conditions qui étaient honnêtes. Là, j'ai l'impression qu'en plus, de ce que j'ai lu sur Reddit, c'est qu'en plus, si t'as pas une machine de guerre, ça tourne difficilement. Je sais pas si tu peux nous confirmer, mec, toi.
Toi qui es une machine de guerre. Ouais, c'est ça, tu peux toujours baisser un peu tes options graphiques. Ça, je veux bien leur laisser ce truc-là.
J'ai vu les configs recommandées, c'est celle du PC que j'avais il y a 12 ans, donc bon.
Ouais.
Ah, bon, ah, après, les rumeurs que j'ai lues étaient peut-être pas les bonnes.
Ça fait un gros bond par rapport au jeu original, quand même.
Je reviens sur les promesses trahies. Moi, tu vois, même donc la campagne est intéressante et tout, il faut avouer que tout ce qui est interface, ça a vieilli un peu. Alors, si t'as fait le jeu à l'époque, ça passe. Je pense que si tu le découvres aujourd'hui, tu dois te dire, ouais, ça sent un peu la naphtaline, quoi. Mais ces espèces de trous de balles...
Par exemple, quoi ?
Ben voilà, ces espèces de trous de balles avaient promis dans les premiers trailers que l'interface serait refaite, qu'on pourrait avoir des groupes de contrôle un peu mieux branlés, qui permettraient de sélectionner plus d'unités à la fois, et de binder tes touches comme tu le souhaites. Bon, alors les groupes de contrôle, c'est à l'ancienne, la sélection d'unités c'est toujours limité à 16, et si tu veux faire tes binds, tu vas taper dans les fichiers de config directement dans les fichiers du jeu.
Comme à l'époque, finalement.
Comme à l'époque.
Et même Activision, vous avez promis un remake nostalgique, voilà, il est là.
Ah, c'est l'expérience telle qu'elle était en 2002, hein, ou 2003, je sais plus.
C'est à peu près ça, puisque pour avoir les bindings un peu plus logiques, enfin pour avoir des bindings qui soient géographiques, au lieu d'être logique.
Alors, géographique,
en gris, voilà, sur ton clavier, plutôt que de les avoir en mode, faut appuyer sur B, donc build, et M, la maison, pour pouvoir faire la maison, ce qui est une logique en français, mais qui a pas forcément de... Enfin, déjà, c'était pas les mêmes en français et en anglais. Et en plus, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Là, tu avais des raccourcis qui étaient systématiquement placés sur, on va dire, la gauche de ton clavier.
Ça, c'est troisième case de la troisième ligne. Bon, troisième touche de la deuxième ligne de mon clavier.
C'est exactement ça.
Perso, j'aime beaucoup jouer comme ça. Et ben ça, si tu le veux, c'est sympathique.
Faut bidouiller comme à l'époque. Voilà. Mais à l'époque, j'avais un petit script qui permettait de le faire tout seul.
Bah, il doit marcher encore. J'espère que tu l'as gardé.
Bah, peut-être.
Contrairement au map custom d'époque, il doit marcher encore, ton script.
LOL.
Oui, parce qu'en plus, si tu veux réimporter tes maps de l'ancien Warcraft 3 que tu avais fait toi-même avec amour, elles ne fonctionnent plus.
C'est mort.
Elle est nulle. C'est marrant parce qu'ils ont sorti, quoi, il y a 2 ans, le Starcraft 1 Remake, et lui, tu peux importer les vieilles cartes, ça marche. Les bindings, ils sont... tu peux refaire les raccourcis clavier comme tu veux, ils l'avaient promis, c'est arrivé avec un mois de retard, mais ça marche. Et par contre, ils ont jamais promis de refaire l'interface.
Non, voilà, mais il suffit que... pour moi, dès le départ, s'ils disent on vous fait le même truc qu'à l'époque, juste un peu retapé, pas de problème.
À la limite, un rafraîchissement façon GOG, finalement. C'est-à-dire, c'est on ça. Se débrouille pour que vous puissiez l'installer à partir du launcher de Blizzard et que ça se fasse le plus vite possible. On fait un petit upgrade des textures, histoire de... On ajoute quelques options pour le RTX, quelques effets. Voilà, tu le refaisais en mode service minimum en le vendant 20 balles. Je pense que ça, les gens auraient peut-être moins gagné.
C'est ce qu'ils ont fait pour StarCraft, de mémoire.
Exactement.
C'est ça.
Exactement, hein. Oui, parce qu'en plus, oui, StarCraft, c'était vraiment en mode service minimum. C'était, on te permet de faire du 1920 par 1080. Ils ont adapté, parce que je crois que le viewport, enfin la taille de ce que tu voyais dépendait de ta résolution sur l'original, ou une connerie
non,
comme
non,
ça.
Non, non, l'original est en 640x480, point barre.
Oui, d'accord. Donc ils ont... Donc voilà, c'est tout bête, hein. Tu permets aux gens de faire du 1920 par 1080, ils sont contents.
Tiens, tu vois, ils l'ont appelé StarCraft tout court. Ils n'ont pas...
Oui, mais c'est
un sous-titre retapé. Voilà.
Et c'est maintenant la seule version que tu peux acheter en ligne chez Blizzard.
Je pense aussi que c'est la seule version qui marcherait, à moins que tu passes par un DOSBox ou un truc comme ça. Mais...
Ça, je suis pas certain.
De quoi ?
Il me semble que la dernière fois,
StarCraft,
je sais pas...
Le StarCraft d'origine, on peut toujours l'installer depuis le CD.
Oui,
ça
tu peux toujours
encore.
L'installer, mais tu peux plus jouer en ligne. Il te force la mise
à jour.
Oui,
il te force la mise à jour.
Et en fait, la version remaster est gratuite, sauf que tu n'as pas les belles textures. Si tu veux les jolies textures et le 16/9, faut passer, tu balances 15 balles.
Ok.
Oui, ce qui n'est pas non plus discutable.
Ouais.
Mais,
ouais. Non, mais ça fait 15 balles pour t'éviter le petit bug graphique qui était apparu au passage sous Windows 7, il me semble.
Non, ça c'est corrigé.
C'est corrigé depuis ? Ok.
Non, mais après, c'est 15 balles si t'as pas le jeu aussi. Parce que si t'as retrouvé ton CD, ta CD key, elle fonctionne toujours, c'est bien, mais si tu l'as pas retrouvé, à 15 balles, tu l'as. Mm. Donc finalement, t'avais le jeu d'origine, t'as le truc d'origine...
Le jeu, je crois, ne demande même plus de CD key. Hein.
Ah ouais
le remake de StarCraft, ils l'ont sorti parce que StarCraft 2 s'est planté en Corée du Sud. Voilà. Mm. C'est juste pour ça.
Putain. Est-ce que vous pensez que Activision Blizzard, enfin, que le reste de l'industrie, va... retenir la claque spectaculaire de Warcraft 3 Reforged, parce que là c'est quand même hyper violent, et va arrêter d'essayer de faire de la machine à AAA, arrêter d'essayer de faire des remasters un peu ras des pâquerettes parce qu'il faut faire plaisir.
Bah, on sait pas, parce que bon, enfin derrière Activision c'est Bobby Kotick.
Oui, non, c'est un sombre connard.
Il est un peu,
mais...
pas très intelligent.
Bah, en fait, il y a les bons et les mauvais remakes, tu vois. Le bon remake, le jeu a été refait, ils le sortent, bah, c'est un bon remake, et puis t'as les mauvais remakes. Bref.
Mais qu'est-ce qui fait un bon remake, tiens, puisque tu fais le malin.
Merde,
qu'est-ce qui fait un bon remake, Zergy, tiens, qu'est-ce qui fait que Warcraft.
C'est bon, il m'a oublié.
Non, t'inquiète, tu vas y rendre après.
Déjà qu'ils tiennent leurs promesses, parce que je pense qu'ils ont un peu trop promis avec le Warcraft 3. Mais justement, il y a un remake là, qui va arriver, qui est le remake des deux premiers Command & Conquer, et qui, attention, sortez les parapluies, je vais dire du bien d'Electronic Arts. Il va pleuvoir
Westwood,
de la merde.
Westwood,
Westwood. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien, puisque le type qui dirige le remake chez Electronic Arts est un fan de la série. Et ils ont fait appel aux gens de Terrocliff Games, qui sont les anciens de Westwood, pour faire le jeu. Donc pour l'instant, ça s'annonce bien.
Oui, mais voilà, donc Antique, je maintiens, qu'est-ce qui fait un bon remake ?
Alors moi déjà je peux dire ce qui ne fait pas un bon remake, downgrader le jeu d'origine.
Pas tenir ses promesses, downgrader le jeu d'origine.
Par exemple,
flinguer le jeu d'origine.
Imagine qu'en fait finalement le remake de Metroid Zero Mission c'était pas Metroid Zero Mission, c'était Metroid. Et que les gens qui avaient Metroid Zero Mission se retrouvent à être forcés de jouer à Metroid sur NES. C'est de la merde comme remake.
On est bien d'accord. Pour moi, le remaster, c'est vraiment juste le fait d'aller retaper un peu le code, retaper quelques textures, réadapter les drivers, et c'est tout.
C'est plus un remaster qu'un... Enfin, de ce que vous racontez depuis tout à l'heure, moi, j'ai pas trop regardé à quoi ressemble le jeu, mais ce que vous me dites, c'est plus un remaster dans le sens où, bah, finalement, le jeu est le même, et t'as des outils qui sont compatibles, des outils d'origine qui sont compatibles, en fait. Enfin,
non.
Mais non, justement, ils sont pas compatibles.
Pas tous, mais globalement, tu vois, tu peux... comment dire... Tu peux upgrader, enfin tu vois, c'est compatible avec la version classique sur 2-3 trucs, donc c'est pas, je vais encore reprendre l'exemple de Zero Mission, mais je trouve c'est un très bon remake à prendre comme exemple, où certes, tu vois, Zero Mission, le jeu est globalement, le déroulé est globalement le même, mais en fait, par exemple, ne serait-ce que la carte du monde est totalement différente. Oui, là, on a un aspect, là,
pour moi, c'est un remake, ça. Elle commence de la même manière, mais enfin, si tu connais par cœur au Metroid sur NES, ça va quand même te surprendre.
Bah, déjà, il y a une zone en plus.
Oui, non, mais ne serait-ce que ça, mais c'est vrai que la grosse différence entre un remake et un remaster, c'est faut imaginer effectivement Resident Evil 2, excellent remake. C'est-à-dire que c'est, on reprend le contexte ou l'univers de l'original et on essaie de le repenser soit radicalement différemment, c'est le cas de Resident Evil 2, soit d'essayer d'avoir plein d'améliorations de qualité de vie et éventuellement de pouvoir rajouter quelques trucs qui étaient peut-être pas possibles à l'époque, c'est le cas de Zero Mission.
Ou le remake de Resident Evil 2, par exemple.
Ou le remake de Resident Evil 2 qui rajoute aussi quelques trucs comme ça, mais finalement le remake de Resident Evil 2 reprend...
Finalement, le seul truc qui a été réimaginé dans Warcraft 3, c'est les contrats généraux d'utilisation.
Oui, c'est les CGU qui ont été revus, mais c'est...
Refonte du CGU, en fait les gens ont cru refonte de l'UI, et non c'était CGU les gars, vous avez mal lu.
Voilà, vous avez mal lu. Mais les CGU, c'est très très important, ils ont passé quand même un temps assez considérable à les faire, pour s'assurer que tout ce que créaient les joueurs serait la propriété d'Activision, ce qui est quand même drôlement bien. Voilà, on nous dit dans le chat, est-ce que Link's Awakening est un bon remake? Alors si on écoute Tardy, il dira non. Moi j'aurais tendance à dire c'est un peu en service minimum, mais j'ai bien aimé.
Moi je dirais que c'est un service minimum un meilleur remake.
Ouais.
Pour les CGU, ils sont dit de toute façon personne ne les lit.
Mais alors pourquoi les upgrader du coup? C'est peut-être un peu...
Pas justement.
Sans un malentendu, ça passait.
L'épisode de South Park où Cartman signe un truc.
Oui,
voilà.
Mais Does It Read, c'est le nouvel iPad. Épisode que je ne vous recommande pas si vous ne connaissez pas Human Centipede. Ça va être compliqué. Nazmurf nous dit CGU, GUI, il y a quand même deux lettres en commun. C'est vrai que tout le monde peut se tromper. Bref. Allez, on va passer à la dernière partie de l'émission qui sera donc le Smash Bros. Direct, on va passer relativement peu de temps dessus, je pense, parce que finalement il n'y a pas eu grand chose de révélé, mais il fallait quand même en parler un petit peu.
Bah, il y avait Bilout,
oui. Putain, non.
Mais maintenant, dans le même jeu, on avait nous, le renard et la bilette.
Bon, allez. Alors, on va écouter de nouveau un petit morceau de Ukulele and the Impossible Lair, c'est l'Overworld Theme, alors qui change en fonction de l'endroit où vous êtes, ça c'est logique, mais qui change surtout devant l'Impossible Lair, parce que c'est là où sont stationnées l'armée d'abeilles qui va vous aider à le passer, et du coup c'est les abeilles qui chantent le thème de Ukulele, et c'est très 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 mignon à écouter. Voilà, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes, on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et nous allons passer à la dernière partie. Donc, Bilout, vous êtes sérieux, quoi? C'est vraiment comme ça qu'on va l'appeler?
Bah, moi, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, c'est raté.
C'est parti, ok.
C'est la VF.
Oh, putain. En VF, il s'appelle Bilout.
je crois que ma prochaine partie de Fire Emblem, je vais trouver son nom. Hein.
Putain, mais.
Et vu qu'il y a le DLC qui sort demain.
Non, mais je... J'ai tellement envie que ce soit vrai, en fait.
Ah, mais...
Je trouve que ça s'appelle Bilout en français, ça me fait tellement marrer. Oh, Bilout, on va aller casser la gueule au cerf d'argent. Ah. Voilà, c'est très bien. Je pense que il faut redoubler l'intégralité. Il faut un doublage français pour Fire Emblem, je nous propose, pour faire toutes les voix.
Alors, moi, tu rigoles, mais moi, j'espère que le prochain Fire Emblem aura un doublage français, comme à l'époque de Radiant Dawn sur Wii.
Il avait un doublage français.
Il avait un doublage français, c'est le seul.
Faut que j'aille rechercher ma Wii d'urgence.
Vous savez,
au fond du quatrième carton qui se trouve sous l'ordinateur.
Non, non, elle est au garage, donc elle est à la cave, donc c'est bon.
Je fais une mini parenthèse, j'avais un jeu sur PlayStation 2 qui s'appelait Kessen. Donc ambiance japonais moyenâgeux. Donc tu vois vraiment tous les mecs en armure samouraï et tout. Et pour le doublage français, ces abrutis, ils avaient eu l'idée de reprendre les accents qui étaient dans la VO, mais de les transposer en français.
Et bah, t'avais
un ch'ti, t'avais un marseillais, tout ça, en armure de samouraï.
Ah, y a, dans le jeu récent, il y a Binary Domain qui est connu là-dessus, où un des représentants du gouvernement a un accent marseillais.
Oh putain.
Et apparemment, un des premiers Dynasty Warriors qui avait une VF, à l'époque on faisait des VF sur Dynasty Warriors, ils ont repris des accents français aussi. Genre accent marseillais, genre de choses.
Oh, c'est bon ça.
C'est vrai que je retrouve les vidéos, je vous enverrai.
Vous êtes pas sérieux quoi.
Si.
Bon, allez. Le Smash Direct, sinon on va pas y arriver. Donc,
Smash Direct qui a commencé par quand même une espèce de bon troll de Sakurai qui t'explique. Oui, alors non, mais vous comprenez, hein, c'est Nintendo qui choisit. Et puis en plus, il y a des gens ils vont se dire, ah putain, mais c'est ce personnage-là, mais je comprends pas, je m'y attendais pas et tout. Et là, ils lancent le trailer. Et ceux qui ont joué Fire Emblem Awakening, Treehouse se comprend très bien de la scène. Parce que c'est le moment où Bilou est enfermé dans les ténèbres.
Putain.
Et donc c'est ça qui en fait, ça reprend donc cette scène du trailer, cette scène du jeu qui est une scène assez sérieuse quand même parce que c'est un moment important de l'aventure et qui est totalement tournée en dérision, que ce soit par...
Elle te ferme les yeux, Bilout.
Ouais, c'est ça. Oh bah, il m'avait fait noir, allez, on se casse.
Putain. Non. Le mec, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit foutage de gueule.
C'est extrêmement second degré parce que déjà la scène est extrêmement sérieuse dans le jeu et là globalement tu vois le méchant qui comprend pas ce qui se passe alors que pendant que Bilef, que ce soit sa version mâle ou femelle, se balade en volant dans le ciel à surarmé comme c'est pas permis, genre il sort avec le logo Smash dans le ciel, ça n'a aucun sens. Et t'as même Sotis donc qui à un moment dans le trailer, Bilef se fait casser la gueule par tous les épéistes du jeu et elle dit qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton excuse? Comment ça? Il y a trop d'épéistes dans le jeu? Mais t'en es un aussi? Fais pas chier!
Ah, les mecs, ils ont vraiment poussé le truc jusqu'au bout, quoi.
Ah oui, non, mais en plus, quand tu... après la fin du trailer, tu vois Sakurai qui est en train d'afficher le poster derrière lui, comme il fait à chaque émission. Et il se retourne vers la caméra avec un sourire en mode genre. Comme prévu. Tu vois, c'est un peu ce côté genre. C'était mon plan depuis le début.
Non, voilà, mais ça fait que. Donc Fire Emblem se retrouve quand même un petit peu surreprésenté dans Smash Ultimate.
Bah, il y a
10% du cast.
7 persos sur 70. Alors, sachant qu'en plus, sur les 7 persos, on a quand même 2 persos écho. Et le fait que Roy et Mark se ressemblent quand même pas mal fait qu'on a quand même 4 personnages avec un gameplay extrêmement proche.
Qui sont pas tous des épéistes quand même, parce que t'as. Comment il s'appelle? L'avatar de.
Bah, en fait,
Awakening, qui est un magicien.
En fait, le gros problème pour moi des personnages de Fire Emblem, c'est pas tant les derniers qui sont sortis, Corinne, Viles ou Robin, qui sont des personnages assez intéressants et qui ont vraiment leurs propres caractéristiques. Peut-être un peu moins pour Robin, mais... Enfin, un peu moins pour Corinne, pardon, parce que Robin est... Enfin, Darren est clairement pour moi le personnage le plus intéressant de Fire Emblem. Mais c'est qu'en fait, on a quand même Marf, Chrome, Lucina et Roy qui sont extrêmement proches en termes de...
Bah, c'est des épéistes, quoi.
Ouais, et puis en plus, ils ont pas... Ils sont même très proches, c'est genre des personnages relativement agiles, qui vont frapper essentiellement à distance, profiter de la portée de leur épée. Tu vois, même Ike qui se bat uniquement avec une épée, il est un peu différent parce que c'est un gros bourrin, donc en fait, faut plus faire attention. Il y a des coups qui sont plus lents, donc faut mieux gérer la distance et compagnie. C'est vrai que la moitié des personnages de Fire Emblem qui jouent à peu près de la même façon... je comprends que les gens soient lassés, quoi.
Mais je comprends, mais en fait, j'ai quand même l'impression que malgré ça... Bilout reste un personnage intéressant à jouer, donc les gens ont gueulé parce que il y a effectivement une surreprésentation des personnages de Fire Emblem, c'est quasiment 10% du cast.
Je suis connecté sur le Switch pile au moment où ils ont annoncé que c'était Billette, c'était le sel. Ouais. Sous le chat.
Ah ouais, c'était le seul complet. Hein.
Ah, mais parce qu'en plus, il y avait eu des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir Dante, il y avait eu des rumeurs comme quoi.
Il y avait Travis Touchdown.
Travis Touchdown, il y avait eu plein de rumeurs sur d'autres combattants. Et c'est vrai que Dante, ça aurait été rigolo. Enfin, tu vois, il y avait un côté. Alors, ça aurait encore été un épéiste. Mais il y avait un côté rigolo, surtout qu'on nous avait annoncé une surprise. Il y avait la sortie de Devil May Cry 3, je crois, sur Switch dans peu de temps. Enfin bon. Il y avait quand même un petit peu de voilà, il y avait un petit peu de teasing
et puis,
là-dessus
et,
mais...
puis en plus enfin alors moi je tiens à dire que je suis content que le perso soit dans le jeu parce que j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait pour l'avoir testé un petit peu. Ce qui est plutôt dommage je trouve c'est que déjà c'est un personnage que on s'attendait à voir dans le jeu vu le succès de Treehouse's. De manière générale, il aurait fini dans Smash Bros à un moment ou un autre. C'est juste que ben en fait, on sort quand même d'une série de DLC avec quatre personnages qui sont des personnages uniquement des éditeurs tiers qui sont tous en plus des guests plutôt
des nouvelles licences
pas forcément ouais voilà de, un des bah, nouvelles
non,
licences
y a... et... bah, non, mais... attends il y a Joker
il y a Joker licence non mais ce que je veux dire c'est dans Smash Bros c'est des nouvelles licences
ah oui non mais voilà il y a Joker oui, Banjo-Kazooie oui.
C'est les personnages qui ont tous des qui apportent enfin, alors dans le cadre de
Jim Carrey en Robotnik très important moi on nous dit dans le chat on a toujours pas de Tetromino dans Smash Bros et je suis complètement d'accord, c'est une honte.
C'est étonnant que ça ne soit pas arrivé d'ailleurs par la musique de Tetris. Mais enfin, t'as quand même 4 personnages avec des mécaniques intéressantes et qui clairement ne sortent pas des carcans habituels des personnages de Smash Bros. Enfin, ce ne sont pas des carcans habituels des personnages de Smash Bros. Avec certains des hommages qui. Notamment Terry, enfin surtout qui est le dernier Terry, où ils sont allés à fond, où ils ont refait un thriller en 2D façon Neo Geo. Il y a 50 musiques qui ont été ajoutées pour un seul terrain, ce qui est assez hallucinant.
Mais c'est clair que, enfin là ils avaient vraiment mis la max quoi.
Et c'est clair que bah après t'as Biloute qui arrive et bon j'adore Fire Emblem Trails, je suis très content de voir le jeu représenté dedans, mais t'as genre 11 musiques qui sont ajoutées et t'as 2 remixes dedans, c'est pas fou.
Oui, c'est un peu le mode service minimum aussi pour le dernier perso. Quoi.
Ouais, tu sens que en fait il y a des gens qui théorisent là-dessus et je serais pas surpris que ce soit le cas, que en fait ça a été un peu un changement pas de dernière minute, mais il y a un moment où on a dû lui demander de changer à Sakura ou un truc comme ça, parce qu'apparemment c'est Nintendo qui prend vraiment les décisions. Et en fait, peut-être qu'à la base, le cinquième prévu de longue date, c'était un personnage tiers, et bah, soit il y a eu une couille avec l'éditeur du personnage, soit il y a eu des changements, genre... Bah, moi je me dis que, par exemple, pour Travis Touchdown, si ça se trouve, à la base, il devait le sortir maintenant, parce que l'épisode 3 devait sortir à peu près au même moment, et au final, comme il est à la bourre, Soda, bah, il se dit, on va le repousser pour pas spoiler les trucs, ou un genre de choses, tu vois.
Tout à fait, surtout qu'il y a un deuxième
DLC, donc.
Un nouveau ouais. DLC, qui est prévu, où il y aura au total 6 personnages, donc ça veut dire que c'est pas fini, il va y avoir au total 60, pratiquement 80 personnages, c'est quand même.
Même plus, parce qu'on est déjà à 80, je crois.
Tu comptes les personnages échos dedans, ou pas?
Si on compte les personnages des cons, on est déjà à 80, c'est quasiment sûr. Je crois que Billette est le numéro 77 ou un truc comme ça, tu vois.
Putain de merde.
Mais bref, et en plus, c'est des mises à jour qui vont s'étaler jusqu'à la... Alors, Billette est le numéro 75 d'après le site.
Donc, oui, si tu rajoutes... Qui doit pas compter les personnages des cons, en fait.
Qui compte pas les personnages des cons, donc si tu rajoutes les personnages des cons, on est à 80.
Putain,
alors, le site qui compte le dresseur de Pokémon et ses trois Pokémon comme trois personnages différents. Hein.
Oui, mais bon, c'est pas complètement illégitime quand tu les joues, en fait.
Oui, non, mais c'est vrai.
Trois styles complètement différents.
Voilà, donc ouais, on est pas loin des 80 personnages en comptant les doublons. Donc on va atteindre les 80 personnages sans compter les doublons.
Voilà, donc il y a 6 nouveaux personnages, et ça on le savait depuis l'avant-dernier.
Alors, on savait qu'il y en aurait 5 quand ils ont annoncé Terry.
Qu'il y en aurait 5 de plus, et là maintenant il y en a 6 de plus
officiellement. Et là, il en a ajouté un 6ème, ça va s'étendre jusqu'à décembre 2021.
Oui, donc en fait, Smash Bros, Nintendo va pousser, va faire de l'actu Smash Bros. Tous les 4 mois, ils vont en sortir un. Quoi.
Le jeu fonctionne, le jeu se vend très très bien, la scène compétitive se marche très très bien aussi. Donc en fait, c'est dans leur intérêt de continuer à sortir des personnages pour le jeu. Mais je pense qu'il y a aussi une volonté de ne pas refaire un épisode tout de suite. Quoi.
Oui, clairement, surtout que là, j'ai l'impression que ça les a bien... Ça les a bien épuisés, entre guillemets, de faire ce truc-là, parce qu'effectivement, tout le monde est là. Tout le monde est là, effectivement. Tu peux difficilement dire ça, surtout qu'il y a des nouveaux costumes aussi, très rigolos, c'est-à-dire que les personnages qui ne sont pas là en tant que personnages finissent Moi, ce que je trouve marrant là-dedans, c'est ça, c'est qu'en fait, t'as des vrais personnages. Quand finalement, on pourrait en mettre un deuxième de personnage, mais que ce serait un peu abusé, et que trouver un style de jeu c'est chiant, on fait un personnage écho. Puis quand on n'a pas vraiment envie de mettre le personnage, mais qu'on a encore un petit peu quand même envie de faire un petit clin d'œil, ou que y a un dessous de table d'un éditeur tiers, boum, on peut faire un costume Mii. Donc c'est génial, parce qu'en fait, tu peux vraiment foutre n'importe quoi dans Smash Bros, ça marche, quoi.
Surtout qu'en plus, on a eu des, il y a eu des belles surprises là-dedans, parce qu'on a eu, il y a le personnage de Cuphead avec une musique du jeu.
Ce qui était quand même cool.
Et ce qui est plutôt inattendu, parce qu'on parle quand même d'un jeu indépendant et qui plus est très récent sur console Nintendo. On a eu un des héros d'Assassin's Creed, je sais plus lequel, en tenue uniquement.
Altaïr, me semble-t-il.
Il me semble quand même qu'on a les lapins crétins qui traînent dans un coin.
Les lapins crétins qui traînent dans un coin, oui.
Et on a eu, je crois que c'était avec Terry Bogard, pardon, ou Banjo-Kazooie. On a eu Sans de Undertale. Et Undertale, c'est moins étonnant parce que c'est un jeu qui est très populaire au Japon et qui, en plus, Toby Fox a travaillé avec Game Freaks pour la BO de Little Town Hero, je crois.
Et Pokémon.
Et il a fait une musique en guest dans Pokémon qui est vachement chouette d'ailleurs, la musique.
Oui, donc en fait, tu te retrouves vraiment finalement. Ce qui est rigolo, c'est que t'as plusieurs niveaux de guest en fait. T'as vraiment le. On a un personnage dans Smash Bros qui est quand même la classe. On a un personnage écho dans Smash Bros, bon, c'est la classe machin. Et puis on a juste un costume Mii, mais c'est quand même déjà pas mal.
Et puis t'as les trophées aussi, parce que t'as eu des. Alors, ils sortent pas de nouveaux trophées, parce que je pense qu'en DLC ce serait infernal à faire. Mais enfin, j'ai une tendance à l'oublier, mais par exemple, on a une tendance à l'oublier, mais Shovel Knight est un personnage présent dans Smash Bros en trophée. Ce qui est plutôt cool.
Tout à fait, non, mais il y a.
Et d'ailleurs, c'est cool qu'il y ait des représentants de jeux indépendants, type Cuphead, même si c'est pas très indépendant comme jeu, type Undertale ou Shovel Knight.
Et puis, t'as les trophées Ed, et puis même derrière, tu as les stickers, puisque.
Les stickers sont. Demandent un petit peu moins de boulot quand même. Hein.
Oui, ça demande beaucoup moins de boulot, mais dans le principe, ils sont quand même là. Représenter des choses qui sont un petit peu plus obscures parfois. Il y a un sticker Mac Rider par exemple. Mac Rider, c'est un jeunesse que plus personne ne connaît, quoi.
Après Mac Rider, il y a un trophée dans chaque épisode depuis Melee, non?
Oui, mais c'est quand même un truc où.
Il y en avait un dans Melee, il y en avait un.
Dans Melee, il y en avait un.
Mais il y a la musique de Mac Rider sur les terrains F-Zero, alors je sais pas s'il y a encore maintenant, mais.
Mais bref, c'est quand même assez rigolo.
Genre la musique alternative de Big Blue in Mute City.
Bref. Enfin bon, voilà, donc il y a eu un Smash Direct, il y a eu plein de choses. Et le savoir Smash Ultimate pendant au moins jusqu'à décembre 2020, je serais quand même assez curieux de savoir, ça leur fait 3 persos cette année, 3 persos l'année prochaine. Alors, il va quand même falloir surveiller ce qu'il va y avoir.
Ils s'engagent sur jusqu'à décembre 2021, à mon avis, pour dire en fait ce sera jusqu'en 2021, mais on prend pas de risque si jamais il y a un retard, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Le truc de DLC, ça devait être jusqu'à février, et au final, ils l'ont fini le mois dernier, tu vois.
Alors, je vais vous poser, juste pour conclure comme ça, juste pour finir, Antix, qu'est-ce qui te ferait plaisir maintenant comme personnage dans Smash Bros? Juste d'un point de vue, on va dire, esthétique, pas forcément d'un point de vue gameplay, je fais confiance à Sakurai, mais...
Justement, au niveau gameplay, j'y aurais pensé aussi, moi on avait parlé de Dante me ferait bien marrer, parce que certes, Dante est un épéiste, mais Dante en fait se bat aussi avec une guitare ou une moto, et je pense qu'il y a des trucs à faire avec ça, pour que ce soit rigolo.
Ah, effectivement, il y a peut-être un truc à faire. Mekton, t'as un personnage que t'aimerais bien voir arriver dans Smash Bros, éventuellement?
Putain, il y en a un paquet. Il y en a un paquet.
Alors, un Tétromino, on nous a proposé, moi je suis assez d'accord.
Ça, c'est une bonne idée.
Voilà, la bulle rouge de Puyo Puyo. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire.
Les héros de Astral Chain, ça marcherait bof.
Ah, ça pourrait donner un truc intéressant avec en variante les héros de Xenoblade.
Il y a plein de costumes, je viens de vérifier. Mais... Genre Nia, tout ça, c'est déjà en costume Mii. Alors, est-ce que avoir un costume Mii exclut le fait que tu es ton personnage?
Ben, a priori, oui, quand même.
Il y a un costume de Chrome dans le jeu.
Oui, bon, mais...
Mais c'est tout d'avant.
Putain, il y a Kirby qui doit avoir 6 transformations de plus, du coup. Enfin, ça doit être le cauchemar à programmer, putain.
Ah ouais, non, mais je pense qu'à chaque fois, il se tire les cheveux sur Kirby. Hein. Parce qu'en plus, ils doivent modéliser le truc. Hein. C'est même plus programmé, c'est modélisé aussi.
Ah, complètement, ouais.
Tiens, Lara Croft, ça se serait là... pété.
Oui, ah, mais pourquoi
ça
pas
pété.
Pourquoi pas Zergy, éventuellement un truc ou toi, Smash Bros, de toute façon, c'était pas forcément...
je joue pas du tout à Smash Bros.
D'accord, mais non, mais si est-ce qu'il y a un truc qui te ferait plaisir quand même, genre un personnage de Warcraft 3?
T'imagines? Je suis plus Starcraft, mais franchement, j'ai aucune idée.
Avec un Zagroche.
Ah, je sais pas, mais...
franchement, je... aucune idée, mais... je joue pas du tout à Smash. Le m'intéresse Master pas Chief. Du tout, désolé.
Ah non, Master Chief, ce serait moche.
Juste pour boire les larmes des joueurs Xbox.
Et le dernier personnage, le sixième, le cadeau, c'est Waluigi.
Non, moi, Tonton Iwata comme personnage.
Ce serait le troll ultime. Oh, ce serait beau.
Ou Reggie fils aimé comme personnage.
Iwata avec Reggie en écho.
Ouais, avec Reggie en écho.
Moi, un truc qui me ferait kiffer en personnage, mais ça n'arrivera jamais, c'est un des robots de Xenoblade Chronicles X.
Ouais,
je pense que ça va être compliqué.
Avec la musique pétée qui va avec.
Mais peut-être en attaque Smash d'un personnage de Xenoblade Chronicles X, tu vois, ça
pourrait j'aurais faire. J'aurais bien vu en Final Smash, mais en vrai, jouer le robot me ferait plus marrer que jouer les persos un peu moches de Xenoblade X, tu vois.
Ouais, c'est compliqué.
Est-ce qu'on réfléchit ça en termes de Smash Bros est un panneau publicitaire et du coup tout personnage qui est inclus dedans annonce plus ou moins la sortie d'un truc derrière ou pas?
Bah quand tu regardes dans le pack de DLC, il y avait deux persos qui étaient là pour de la pub, c'était le héros de Dragon Quest et Bilef. Même si ouais. Bilef c'est un peu moins vrai.
Tant qu'on est dans Toriyama, s'ils nous rajoutent le héros de Chrono Trigger et qu'ils annoncent une ressortie derrière, c'est trop trop bon.
Ah j'avoue, ce serait cool. Je croyais que t'allais dire Sangoku en parlant de Toriyama. Goku.
Mais je reconnais beaucoup que ça ferait triper d'avoir Goku dans Smash Bros.
Mais en vrai, je pense que Goku, il y a tellement de jeux Dragon Ball que Goku est presque un personnage de jeu vidéo maintenant, tu vois.
Ah oui, complètement. Mais c'est pour ça que ça.
Oui, c'est aussi du jeu de baston.
Oui, puis ça pourrait s'adapter. Je veux dire, après tout, les personnages de Street Fighter, ils sont très jolis dedans. Ils ont un leur propre style et ils s'intègrent très bien dedans. Je pense que Goku, c'est pas forcément totalement idiot.
Oui, d'ailleurs, justement, un truc que j'espère pas, moi.
C'est un personnage de Tekken. Vous connaissez la musique chantée par Bernard Minet.
Non.
Ah oui, ce serait drôle ça.
Un personnage de Tekken. Pourquoi un personnage? C'est bien
non,
Tekken.
Que je n'espère pas, en fait.
Oui, non, mais c'est pourquoi? C'est bien Tekken, non?
Je suis pas un grand fan. En fait, le problème, c'est. Tu vois, les personnages. Alors, je suis pas très fan de Tekken déjà. Je trouve pas les designs
non,
très
mais...
très beaux.
Oui, d'accord.
Et il y a un autre truc, c'est que les personnages de jeux de baston dans Smash Bros. Autant je suis très content de voir Ryu et Terry et Ken, du coup. Autant je trouve que c'est pas. Ils sont un peu. Enfin, visuellement, ils sont un peu moins dans le délire que les autres persos.
Oui, c'est vrai.
Surtout Ryu, parce que Ken encore, il a le point de feu, donc ça c'est rigolo. Mais tu vois, Ryu, c'est vraiment. Je le trouve un peu. Il est cool à jouer et tout, mais il est très. Tu sens que c'est un personnage de Street Fighter et pas du tout de Smash Bros où les mecs font des doubles sauts, ont des attaques spéciales dans tous les sens, qui font des explosions
oui, c'est,
partout.
C'est... J'ai eu le même problème avec Tatsunoko versus Capcom, dans lequel bah, quand tu prends Ryu dans Tatsunoko versus Capcom qui peut faire des doubles sauts, des attaques spéciales, machin, ça fait très bizarre. Ça fait très décalé.
Surtout quand en face t'as des mecs avec des mecs qui ont des armures de l'espace. Ouais,
des robots géants et voilà quoi. Effectivement, ça fait assez bizarre.
Et du coup, ouais, bah, tu vois, Terry, il te colle un peu plus au truc parce qu'il y a des coups spéciaux cachés et puis il a des coups un peu extravagants. Mais c'est vrai que Ryu, moi, je le trouvais moins dans le lire. Donc, à un personnage de Tekken, je me dis, mais les mecs ont même pas de boule de feu, on va s'emmerder, non?
Bah, je sais pas, il pourrait faire des trucs, j'en sais rien. Honnêtement,
après,
je.
C'est croyable pour faire un truc, mais tu vois, genre un personnage de Tekken, ça vendrait pas du rêve, mais ça me surprend qu'ils en aient pas déjà proposé un, vu que c'est Bandai Namco qui développe le jeu quand même. Faut pas oublier.
Ben, ça arrivera peut-être, quoi. Finalement, techniquement, il pourrait le faire. Je pense que le principe d'un personnage comme ça, c'est d'arriver à faire quelque chose d'un peu intéressant, original. Moi, au départ, quand j'avais vu Simon Belmont et Richter Belmont, je m'étais dit, bon, je vois pas comment ça va se jouer. Et en fait, ça se joue très bien, c'est rigolo à jouer. Il a ses forces, ses faiblesses. Ça marche. Les mecs ont réussi à faire un truc un peu... Enfin, pas original, mais ils ont réussi à exploiter bien le fait qu'il y ait une croix, une hache... Un fouet, un machin, un truc. Enfin, franchement, ils ont fait un truc plutôt sympa.
Bah, franchement, moi, tu vois, Simon et Richter, enfin, les personnages de Castlevania, je les voyais très très bien dans le jeu parce que je me suis dit, bah en fait, leurs items de Castlevania, c'est comme Link.
Ouais, mais je trouve que c'est pas si évident que ça.
Ah, non, mais je suis d'accord. Et puis en plus, ils ont vraiment un feeling particulier. Hein.
Tout à fait, non, mais c'est, voilà. Mais du coup, je me dis que finalement, ils pourraient mettre à peu près n'importe quoi. Donc on attend Edouard Balladur dans Smash Bros.
Bah, on rappelle qu'il y a Sonic dans le jeu.
Non, stop.
Mais d'ailleurs, Sonic, pour le coup, pour moi, il est un peu comme Ryu. Tu sens qu'il n'est pas flamboyant.
Moi, je veux Jim Carrey Robotnik, mais doublé par Jim Carrey qu'on a rien à foutre comme dans le film.
Imagine, il change la VF pour mettre le doubleur de Sonic du film.
Oui. Malik Boulayem, je crois qu'on nous a dit tout à l'heure. Bon, bref. Allez, il va être temps de se quitter, il commence à être drôlement tard, beaucoup
oui,
trop tard.
Et puis j'ai de la vaisselle à faire.
Moi aussi. J'ai la vaisselle à faire, j'ai le chat qui est perdu. C'est... Voilà, le chat est perdu. C'est... J'ai un chat sénile, en fait, qui est perdu dans l'appartement, de temps en temps, miaule comme ça, à la mort. Bon, bref, c'est cool, tout va bien. On va y arriver. Donc nous, on va se retrouver normalement dans 2 semaines, je sais pas du tout quel sera le sujet de l'émission, parce que le truc, c'est qu'on a...
Le débrief du direct.
Oui, alors on peut faire ça. Le truc, c'est qu'il y a quand même assez peu de jeux qui sortent, en fait, dans les 2 mois à venir, à part Animal Crossing, en gros.
Bah moi, je ferai sûrement un petit passage par le DLC de Fire Emblem.
Il y a probablement ça. Je sais qu'il y a Darksiders Genesis qui arrive cette semaine, normalement.
Oula.
Faudrait causer des problèmes de sauvegarde du futur Animal Crossing.
Oh oui.
Oh, une seule île par cartouche.
Ah oui.
Ou par console, je sais plus.
Par profil, je crois.
Non, justement, c'est par profil, ça irait.
Par console, oui. Tu par peux console. Avoir plusieurs profils dans le même village.
Putain la vache, non ça va être compliqué. Bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, on se retrouve dans 2 semaines. Débrief des 2 directs de février, par console. Non, stop. Bref, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao tout le monde, bisous.
Bye bye.
Salut.
Bisous.